Le journal de l'économie avec François Geffrier.
6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, la trajectoire des finances publiques est fragile et peu ambitieuse, dénonce la Cour des comptes. Y aura-t-il bientôt des camions géants, longs comme deux bus? Les députés européens vont voter. Et puis, qui est le mystérieux inventeur du Bitcoin? La justice britannique va nous donner un indice aujourd'hui. La Cour des comptes tacle le gouvernement. La situation des finances publiques est parmi les plus dégradées de toute la zone euro. Et Éric Mauban, la réponse du gouvernement n'est pas assez ambitieuse.
Oui, le rapport dénonce trois faiblesses majeures. La première, c'est un scénario macroéconomique trop optimiste pour cette année. Rappelons que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a récemment abaissé sa prévision de croissance à 1% contre 1,4% précédemment. La deuxième faiblesse observée est un retour tardif du déficit public sous la barre des 3% du PIB en 2027. Et enfin, des efforts inédits de maîtrise des dépenses, mais non documentés et renvoyés à la période 2025-2027. L'annonce par le gouvernement de gel de crédit est saluée comme impérative, mais jugée insuffisante. Le redressement des comptes publics d'ici à 2027 est considéré comme fragile et ne comprend aucune marge de manœuvre en cas de scénario moins favorable. Des efforts considérables restent à fournir, selon Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Ils demanderont courage et volonté politique pour ne pas se mettre à dos la Commission européenne et nos partenaires européens.
Éric Mauban, en direct, le grand sujet abordé cette année par la Cour des comptes, hormis les finances publiques, c'est le changement climatique. La Cour estime que l'adaptation nécessaire n'est pas chiffrée, qu'il faut par exemple des investissements supplémentaires pour adapter les 18 centrales nucléaires françaises, ou encore que les objectifs des banques sur le sujet du climat sont peu quantifiables, peu suivis et peu comparables. Il y a donc des efforts à faire. À propos d'environnement, un vrai débat intéressant. Faut-il des camions géants sur les routes, 25 mètres de long, 60 tonnes par engin? Le Parlement européen se prononce aujourd'hui sur une autorisation de ces méga poids lourds, plus longs que des terrains de tennis, Zoé Pallier.
Avec une cabine et deux remorques, on logera dans ces méga-camions 50% de marchandises en plus, indique Erwan Sellerier de la Fédération Nationale des Transports Routiers.
Avec un véhicule standard, vous êtes à peu près à 100 mètres cubes. Là, on passe à 150 mètres cubes. Ça veut dire que pour un même volume transporté, vous allez avoir besoin de moins de véhicules sur les routes.
Mais il y aura aussi moins de transports dits combinés entre le rail et la route, car les wagons ne sont pas adaptés pour accueillir ces méga-camions, précise Mélinda Rollo de France Nature Environnement.
Le train émet que 0,3% des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports quand le poids lourd en émet 22. Il est beaucoup plus efficace d'inciter les transporteurs de marchandises à passer par le train plutôt que par des méga-camions.
Or, ces nouveaux poids lourds seront plus compétitifs et risquent de gagner des parts de marché sur le rail. Raphaël Doutrebente préside l'alliance 4F des acteurs du fret ferroviaire français.
On est avec des entreprises ferroviaires qui payent l'infrastructure et des camions qui viennent de l'étranger, qui ne payent pas et qui en plus vont abîmer la route, vont obliger à modifier des ronds-points et qui vont évidemment créer une dépense supplémentaire en infrastructure.
Ces coûts d'entretien dépasseraient le milliard d'euros par an. La question a cristallisé les débats au Parlement européen. Le vote s'annonce serré aujourd'hui à Strasbourg.
Zoé Pallier, encore sur ce sujet de l'environnement et des transports, il y a ce débat enflammé en Allemagne, c'est le cas de le dire, sur la gigafactory de Tesla près de Berlin, arrêtée depuis un incendie volontaire à proximité. Et le projet d'extension de cette usine suscite une énorme controverse dans la société allemande, nous explique Patricia Commin, professeure de civilisation allemande à l'université de Cergy-Pontoise.
La difficulté, c'est qu'on est très près de Berlin et donc Tesla rejette des matières dangereuses dans l'eau et qui peuvent remettre en cause l'alimentation en eau des Berlinois. Et un deuxième point aussi qui fait que les esprits se sont échauffés et puis la partie émergée un petit peu violente de ces mouvements s'est concentrée sur Tesla, c'est que Tesla refuse de s'intégrer dans le système syndical de coopération entre patronat et ouvriers qui est normal en Allemagne. Et peut-être que la violence à laquelle on assiste aujourd'hui vient du fait que la culture au compromis est mise à mal.
Les marchés financiers, le Dow Jones a gagné 0,12% hier, le Nasdaq a reculé 0,5%, le CAC 40 a perdu 0,11% et le Nikkei en ce moment recule de 0,23%. On note un nouveau record du Bitcoin à $72,880 il y a quelques heures hier. Alors justement, à propos du Bitcoin, va-t-on connaître l'identité de son créateur, le fameux Satoshi Nakamoto? On n'a jamais su si c'était une personne ou peut-être le nom d'un groupe d'individus, un pseudonyme en tout cas. Il bat record sur record et un procès à Londres aujourd'hui, celui de Craig Wright, on va le suivre, parce que cet entrepreneur australien prétend être l'inventeur du Bitcoin. Pour l'instant, Eric Koch, Craig Wright a eu du mal à défendre son cas.
Satoshi ou plutôt Fake-toshi, comprendre le faux Satoshi. De nombreux internautes mais aussi des experts penchent pour la deuxième option. En cause, les nombreuses approximations et le manque de preuves apportées par Craig Wright pour défendre son cas. En effet, en un mois de procès, l'Australien de 53 ans a multiplié les ratés. Ses emails devant prouver qu'il est à l'origine du Bitcoin en 2008 sont antidatés. Pour sa défense, Craig Wright jure qu'il a été piraté. De même, plusieurs informaticiens experts en blockchain, technologie fondamentale de la crypto-monnaie, affirme n'avoir jamais eu affaire à Craig Wright, alors qu'il prétend le contraire. En somme, rien ne tient face aux questions sur le code source de la crypto-monnaie. Il s'est là aussi emmêlé les pinceaux. Une crédibilité bien fragile que Craig Wright tentera de renforcer d'ici vendredi pour prouver qu'il est bel et bien le père du Bitcoin et récupérer peut-être les milliards de dollars qui, selon lui, lui appartiennent.
Éric Kioch, la DGSE recrute et pour une fois, elle n'en fait pas un secret d'État. Entrez dans la légende, rejoignez le service secret français. C'est le type de message tout sauf discret que poste le service sur Internet. Il tient même un stand aujourd'hui au forum Choisir le service public à la Cité universitaire de Paris. Ces dernières années, le service des renseignements français extérieurs diversifie ses méthodes pour recruter des espions, des médecins, des linguistes et la DGSE qui multiplie donc les annonces sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, les interventions aussi en école d'ingénieurs. Il lui faut 800 candidats chaque année. Claude Moniquet est spécialiste du renseignement après 20 années passées à la DGSE.
Moi, j'y suis entré comme agent dans les années 80. À l'époque, il y avait 70% de militaires, 30% de civils. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a à peu près 70% de civils qui se répartissent moitié-moitié entre fonctionnaires ou contractuels civils. Le spectre des métiers est beaucoup plus important. Entre autres, bien entendu, dans les technologies de la communication, mais aussi pour tout ce qui touche les langues. Vous n'allez pas trouver à tous les coins de rue un candidat qui répond à tous les critères et qui parle le pashtoun ou l'hindi. Donc, il y a des besoins nouveaux, il y a un turnover plus important. Ça induit qu'on va chercher les gens différemment. Aujourd'hui, il faut sortir dans la société pour recruter en permanence.
Voilà, ça fait rêver. Et dans un instant, ce n'est pas Malotru ou Moule à gaufre du Bureau des légendes qui va rentrer dans le studio de Radio Classique, mais un phénomène. Tout de même, David Abiker pour le 7-9 de Radio Classique.